Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici arrivés au cinquième épisode de mon cours pour l'année 2021. Une crise prolongée, même si nous ne sommes pas encore véritablement arrivés en plein dans la crise, mais vous connaissez assez maintenant l'Empire ottoman pour savoir que il y a toujours un état de crise, même pendant les années 1860 que nous avons évoquées. La semaine dernière. Si vous vous souvenez, j'avais parlé un peu du changement de règne et du changement de mentalité et d'idéologie qui accompagnait ce changement de règne. J'avais insisté sur le fait que Abdulaziz, le frère d'Abdulmejid, Abdulmejid étant mort en 1861, Abdulaziz, lorsqu'il prend la succession de son frère, veut se désolidariser un peu de l'image que s'était créée Abdulmejid, son frère aîné. Cette image, on l'a bien vue, c'était celle de la ruée vers l'Occident, c'est-à-dire une image extrêmement occidentalisante, un engagement dans une modernité qui était en grande partie imposée par les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne et la France. Nous en avons pour exemple, pour preuve même, le célèbre décret de 1856, l'édit des réformes, qui, en quelques mots, imposait à l'Empire ottoman un statut d'égalité à accorder à tous les sujets de l'Empire, qui visait essentiellement l'intégration des non-musulmans dans le système. C'est quelque chose qui avait été assez mal pris par la population musulmane et on avait évoqué quelques réactions qui parfois allaient jusqu'à des tentatives de régicide. Donc lorsqu'en 1861 Abdulmejid meurt, Abdulaziz a en tête de se distinguer, en tout cas pour ce qui est de l'image et pour ce qui est de l'idéologie dominante de l'Empire, se distinguer de son frère, et bien sûr son frère étant essentiellement impliqué dans une occidentalisation à outrance, il va jouer la carte de l'islam ou la carte de l'Orient. C'est-à-dire qu'il va essayer de modifier un peu la vision que l'on a de l'Empire ottoman vers le public intérieur, vers l'opinion publique ottomane. Il va essayer de créer une image beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus ancrée dans la tradition. Et vers l'Occident, il va jouer plutôt la carte de l'Orient. Et nous en avons vu quelques exemples dans l'architecture de la période. C'est intéressant parce que, encore une fois, l'architecture, c'est quelque chose de très parlant. Dans le cas des années 1860 à Istanbul, nous avons malheureusement très peu de témoignages concernant la manière dont le public ottoman lui-même percevait l'introduction de ces nouveaux éléments architecturaux, cet orientalisme. Et par conséquent, je ne suis pas sûr, d'ailleurs je doute fort, que la population ait été consciente du fait qu'il s'agissait là d'un style architectural nouveau, qui se voulait novateur et qui voulait donner un message nouveau, un message différent au grand public. Je crois que les Occidentaux ont été beaucoup plus visés et par conséquent, c'est une manière d'adapter en quelque sorte cette modernité, ce désir de modernité à un public occidental qui, lui, est au courant de l'orientalisme, de l'architecture orientaliste, alambresque, mauresque, etc., et pour qui cela devait avoir un certain sens. Je vous ai montré en particulier l'exemple de la décoration de l'ordre que Abdulaziz va créer en 1861, un peu pour damer le pion à l'ordre que son frère avait créé en 1851-52, l'ordre Bejidi. Il ne va pas l'appeler l'ordre Azizi, heureusement d'ailleurs, il l'appellera l'ordre Osmani, la réforme, la référence étant à la continuité de l'Empire. Et vous vous souviendrez que le langage décoratif de cette nouvelle décoration, de ce nouvel ordre, est extrêmement ancré dans cette vision orientaliste de l'islam et de la turcité. Le vert, le rouge, et bien sûr des références explicites à la fondation de l'Empire et par conséquent à un sultan qui pratique le culte des ancêtres et qui par conséquent va d'ailleurs, il va profiter de cette création d'un nouvel ordre pour aller rendre hommage à ses ancêtres, il va rendre visite au mausolée d'Osman, le fondateur éponyme de la dynastie, et il va lui accrocher la décoration en diamant de l'ordre osmani, et ça c'est un geste qui en dit long justement sur cette volonté de faire mousser en quelque sorte l'histoire de la dynastie, l'histoire de l'empire, pour se constituer une nouvelle image de l'empire. Cela étant dit, et c'est pourquoi sans arrêt dans les années 1860 et même dans les années 1870, ce sont un peu des montagnes russes, puisque on va d'un extrême à l'autre. D'un côté, on flirte avec l'islam et avec la tradition. De l'autre, on s'engage dans la modernité à plein temps. Et c'est pendant le règne d'Abdulaziz que va avoir lieu probablement l'événement le plus marquant qui unit, qui met en contact, qui met en rapport les sultans ottomans, le sultan ottoman lui-même en l'occurrence, avec la royauté et les monarchies occidentales. En effet, en 1867, Abdulaziz va entreprendre un grand tour de l'Europe. Alors, derrière ce tour, il y a un contexte qui est lui aussi extrêmement parlant, puisqu'il va se rendre à Paris, tout d'abord, via Marseille. Il va se rendre à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Vous savez que ces expositions universelles avaient commencé quelques décennies plus tôt, mais en 1851 et en 1855, donc à Londres d'abord, puis à Paris, les Ottomans s'étaient engagés dans ce nouveau spectacle de la modernité et du progrès, et avaient tenu à participer en tant que nation, en quelque sorte, à ce festival du progrès. Évidemment, les moyens dont disposaient les Ottomans étaient limités. Ils ne pouvaient, en gros, en 51 et en 55, ils ne pouvaient qu'exposer quelques produits locaux, des produits textiles, des produits agricoles. Donc c'était un peu une foire des produits ottomans présentés dans un contexte qui, lui, consacrait des produits tout autres, puisque les expositions universelles, c'est essentiellement la consécration de l'industrie, des progrès techniques et de tous les produits qui découlent de cette industrialisation qui est en train de dominer toute l'Europe à cette époque-là. Les Ottomans ne s'industrialisent pas encore. Il y a bien quelques tentatives de fonder des usines, une usine qui fabriquerait des fez, donc cette coiffure nationale, ce qui permet d'équiper une grande partie de la population, donc c'est bien utile, mais ça ne va pas très loin. Et surtout, quand il s'agit d'industries lourdes, métallurgiques, etc., les Ottomans ne sont absolument pas capables de se lancer dans ce genre d'investissement. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut souligner que les investissements occidentaux dans l'Empire ottoman, eux non plus, ne vont pas se lancer dans des projets faramineux qui demandent beaucoup d'investissements et ne promettent que des retours à long terme. C'est-à-dire que l'industrie ne prendra pas source dans l'Empire ottoman. Les gros investissements occidentaux, ils sont dans le commerce, ils sont dans la banque, ils sont dans les communications, dans les transports, ils sont dans tout ce qui peut rapporter immédiatement quelque avantage aux investisseurs, et par conséquent, il y a une sorte de panne industrielle dans l'Empire ottoman. 1867, la grande exposition universelle de Paris, est un événement majeur, déjà parce que Napoléon III a énormément investi dans ce projet. Il veut en faire une sorte de consécration de la France impériale et de Paris. Donc c'est vraiment un événement majeur. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un peu l'étendue du palais de l'exposition qui couvre à peu près tout le Champ de Mars, là où se dressera quelques décennies plus tard la Tour Eiffel. C'est énorme, c'est vraiment un espace énorme qui est complètement consacré, entièrement consacré à ce culte du progrès et de l'industrie. Et là, les Ottomans vont s'investir beaucoup plus qu'en 1851 et en 55. Toutefois, encore une fois, ils ne peuvent pas s'investir de la même manière que les nations européennes, ils n'ont pas vraiment d'industrie, donc ils vont encore jouer la carte des produits locaux, les textiles, les tapis, des productions artisanales qui plaisent énormément, des minerais. Alors bien sûr, la suggestion que bien sûr l'Empire ottoman est riche en minerais et que par conséquent il y a là un potentiel à exploiter, mais en gros il n'y a rien de très massif. Ce sont des choses qui tiennent dans des vitrines assez modestes. Et par conséquent, ils trouvent comme formule, pour avoir une présence un peu plus importante, ils trouvent l'architecture. Et l'architecture, elle est représentée par plusieurs bâtiments. C'est un peu le principe du parc d'attractions, hein. C'est un peu Walt Disney avant l'heure. Les Ottomans vont se faire bâtir par des architectes occidentaux, parviller en étain, une mosquée, avec un petit cimetière à côté, des bains et un kiosque. On les voit tous les trois sur ces images tirées des revues illustrées de la période. Et là aussi, on voit à quel point les Ottomans, en fait, ne décident pas vraiment de leur plein gré. Ils répondent à l'attente du public occidental. Que demande le public occidental? Alors, bien sûr, l'industrie demande des échantillons de minerais, etc., des produits qui pourraient être commercialisés, mais le grand public, celui qui va par centaines de milliers visiter le parc d'attractions qu'est l'exposition universelle, pour ce grand public-là, il faut donner de l'Orient. Et par conséquent, c'est de l'Orient qu'on donnera, et c'est un Orient un peu mixte, c'est moins orientalisant, c'est assez comique quand on y pense, c'est un peu moins orientalisant que les bâtiments qui sont érigés à Istanbul même pendant le règne Abdulaziz, où l'on voit vraiment des fantaisies mauresques qui dépassent de beaucoup la tradition architecturale ottomane. Dans le cas du parc l'exposition universelle, le kiosque a des éléments qui sont un peu mauresques, les bains, évidemment, ça évoque un certain Orient, et il y a quand même des éléments architecturaux qui sont un peu empruntés à des modèles autres que l'architecture ottomane à Constantinople même. Mais en gros, on est un peu plus modeste, on freine un peu son orientalisme, et on présente donc quelque chose qui ressemble assez bien à l'architecture ottomane telle qu'on peut la découvrir en Anatolie occidentale et à Constantinople même à cette époque-là. Donc, c'est 1867, c'est un gros investissement. Des sommes importantes sont investies dans ce projet, dans la participation ottomane. Et par conséquent, lorsque Abdulaziz décide de rendre visite à Napoléon III, il choisira ce moment qui coïncide avec l'exposition universelle. D'ailleurs, il va participer à la distribution des prix à la fin de l'exposition dans la tribune impériale avec à ses côtés Napoléon III. Donc, cette visite en Europe, elle commence très bien, même si il y a quelques problèmes, notamment le fait que la révolution mexicaine a tué l'empereur du Mexique, cet empereur sur qui Napoléon comptait tellement. Donc il y a des événements qui ternissent un peu le côté festif de cette occasion, mais Abdulaziz arrive quand même à briller par sa présence. Il a, par exemple, cette illustration que l'on voit du prince impérial, donc Louis-Napoléon, dont je parlais la dernière fois pour dire qu'il avait servi d'inspiration probablement à la manière dont Abdulaziz voulait promouvoir son propre fils, Yusuf Izzeddin, en tant que prince impérial et probablement successeur au trône. Le prince impérial, qui est président de l'exposition universelle, si je ne me trompe, il a 10-11 ans à l'époque, ce qui prouve que ce que l'on pourrait prendre pour une fantaisie orientale à Istanbul a son pendant à Paris. Et il présente donc à l'empereur la grande médaille de la classe 94. Vous savez que les produits étaient catégorisés, ils étaient divisés en classes. Et on voit un Abdulaziz siégeant à côté de Napoléon, se penchant d'un air intéressé vers la médaille ou vers Louis-Napoléon. Donc il se mêle dans un monde, dans un public, dans une vision, dans un espace public qui lui était jusque-là interdit. C'est quand même un événement majeur du côté ottoman comme du côté occidental. Les Occidentaux n'ont jamais vu de souverain ottoman sur le sol européen. Les Ottomans n'ont jamais vu leur empereur quitter le sol de l'Empire autrement que pour mener une campagne militaire contre les infidèles. Donc vraiment, c'est du nouveau, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'actualité, d'autant plus qu'il y a un phénomène d'émulation et de rivalité qui s'établit entre Abdulaziz et le khédive d'Égypte, Ismaïl Pacha, qui lui aussi est à Paris pour la même occasion, et cet ancien vassal, qui est maintenant plus ou moins reconnu comme un souverain à part entière, est en train de briller lui aussi, d'autant plus que lui est beaucoup plus familiarisé avec les coutumes occidentales et que par conséquent il présente un peu mieux que Abdulaziz, qui est quand même un peu plus réservé, un peu plus fruste, disons. Mais ce voyage se poursuit à Londres, et ça, évidemment, c'est très important puisque la Grande-Bretagne domine la politique internationale à cette époque-là. Donc, Abdulaziz, après un séjour à Paris, va se rendre à Londres, il va traverser la Manche, atterrir à Douvres, où il est accueilli par le prince de Galles. Il résidera au palais de Buckingham à Londres, et à Londres aussi, il sera l'objet de beaucoup de festivités, par exemple cette réception au Guildhall, appelez ça l'hôtel de ville si vous voulez, où l'on fête l'arrivée de ce souverain oriental, d'autant plus que dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a encore plus d'intérêt pour le potentiel économique que représente l'Empire ottoman. Toutes les industries de Manchester, de Birmingham, etc., vont rendre visite au souverain. Il faut se souvenir que c'est une période où la crise cotonnière bat son plein. La guerre de sécession aux États-Unis a créé énormément de problèmes. problème pour l'approvisionnement du coton, notamment en Angleterre, et les Ottomans se sont mis à la production du coton pour répondre à cette demande, pour profiter en quelque sorte de ce creux que la guerre américaine avait créé. Par conséquent, les industriels de Manchester, de Birmingham, de Leeds, etc., vont se rendre à Londres pour rencontrer le sultan et pour essayer de promouvoir leurs propres intérêts. Donc, il est en train, en quelque sorte, de démarcher aussi les grandes puissances, puisque, à côté du côté purement prestigieux et officiel de cette visite, il y a énormément d'intérêts économiques qui sont en jeu. Du point de vue de l'Empire et du point de vue de la dynastie, il y a un événement, il y a un aspect extrêmement intéressant de ce voyage qui a un rapport avec la modernisation de la dynastie. Vous savez que les princes étaient jusque-là plus ou moins enfermés. On sait que Abdulmejid emmenait ses fils de temps en temps au théâtre, voir l'opéra à Istanbul même, à Pera, dans le quartier européen de la ville. Mais en gros, les princes impériaux n'apparaissaient pas en public, ils ne participaient pas à tous les fastes de l'Empire qui était entièrement dominé par le sultan lui-même et par les hauts dignitaires de la Sublime Porte. Seule exception, Abdulaziz avait en quelque sorte enfreint à la tradition en promouvant son propre fils, Yusuf Izzeddin, qu'il avait essayé de présenter comme une sorte d'officier de la garde impériale, etc. Mais son âge était tel, enfin il a été promu maréchal à l'âge de 11 ans, que ça ne pouvait pas vraiment déboucher sur une présence publique de quelque importance. Donc l'intention y était, d'autant plus qu'il rêvait un peu de rétablir une sorte de succession de père en fils, une sorte de primogéniture, mais le voyage en Europe devient l'occasion pour certains princes de se montrer en public à un âge qui est quand même respectable. C'est notamment le cas des deux fils d'Abdulmejid, donc les neveux d'Abdulaziz. À gauche, vous voyez Mehmed Mourad, né en 1840, et à droite, Abdulhamid, né 2 ans plus tard, en 1842. Les deux photographies ont été prises dans le même studio de Downey à Londres. Ils ont à peine 25 ans, l'un 26, l'autre 24, ou 27 et 25. Ce sont deux jeunes princes qui vont d'une certaine manière briller en Europe, parce que c'est la première fois qu'on voit non seulement un sultan, mais aussi des princes qui l'accompagnent et qui sont habillés, vous voyez les beaux costumes dont qu'il porte sur ses photos, ils sont habillés à l'européenne, si ce n'est pour le fez, et par conséquent, ils représentent en quelque sorte l'espoir d'un empire qui va s'ancrer dans la modernité et qui va continuer à s'occidentaliser, à se civilisé, entre guillemets, c'est ce que la plupart des observateurs occidentaux pensent. Alors, ce qui est intéressant, et nous reviendrons là-dessus à plusieurs reprises, c'est que nous avons là non seulement deux frères princes, deux frères princiers, deux futurs sultans, Mourad et Abdulhamid, nous avons aussi Abel et Cain. Abel et Cain, puisque Abel, Mourad va devenir victime en quelque sorte de Cain, d'Abdulhamid, puisque, encore une fois nous y reviendrons, il sera détrôné au bout de 3 mois pour incapacité mentale, en fait alcoolisme, etc. Il sera détrôné et remplacé et emprisonné littéralement pendant 28 ans dans un palais sur le Bosphore par son frère qui lui succédera. Et c'est un peu là qu'est né un peu ce mythe, cette légende des deux frères ennemis, des deux frères excessivement différent. Mourad, très ouvert vers l'Occident, on raconte qu'il danse la quadrille, on raconte qu'il flirte avec les princesses britanniques. L'autre, au contraire, beaucoup plus sombre, beaucoup plus réservé, se serait déjà forgé une sorte de vision assez négative de l'Occident et se serait prémuni en quelque sorte contre l'impérialisme à venir en développant sa méfiance à l'égard de l'Occident. Donc les deux frères à Londres, ils accompagnent leur oncle. Le fils y est aussi, mais le fils a à peine 10 ans, donc il n'arrive pas à briller de la même manière. La famille impériale et sa suite vont passer de Londres à Bruxelles, de là à Vienne et ensuite rentrer à Istanbul après un voyage, un périple de quelques 40 jours. C'est un événement majeur qui est, et vous connaissez bien sûr ma passion des médailles, qui est commémorée par une médaille qui est frappée à Londres à l'effigie d'Abdulaziz, avec à gauche la photographie qui a servi à cette représentation médaillée. C'est un gros événement, c'est un gros événement et tout le monde mise là-dessus. Or, ça n'est, et nous le verrons, la crise est aux portes de l'Empire, et par conséquent, cet enthousiasme, ce désir de voir une sorte de consécration de l'occidentalité ou de l'occidentalisation de l'Empire va en grande partie être avortée par les événements qui suivent. En plus, 1867 est suivi par un autre événement majeur, fastueux, celui d'une visite impériale, mais en sens inverse, puisque en 1869, Eugénie de Montijo, l'impératrice, la femme de Napoléon III, va se rendre à Constantinople, en route pour l'Égypte, puisque l'objectif premier de son voyage, c'est l'inauguration du canal de Suez, un événement majeur et encore une fois un événement que les Ottomans voient d'un très mauvais œil, puisque c'est quelque chose qui fait encore une fois briller le Khédive d'Égypte, le gouvernement d'Égypte, le pacha d'Égypte, en augmentant son prestige, son importance aux yeux de l'Occident sur la scène internationale. Et d'un certain point de vue, lorsqu'on compare les fastes de la visite impériale, de la visite de génie en Égypte à ceux de son passage par Istanbul, qui est beaucoup plus court, on voit bien que l'investissement des Égyptiens était bien plus important et que par conséquent, cette découverte de l'Égypte par l'impératrice est quelque chose qui va occuper la scène de l'actualité beaucoup plus que la visite à Istanbul. Mais toujours est-il que la visite à Istanbul est en elle-même assez frappante. On voit ici Eugénie et Abdulaziz trônant sous le kiosque d'un caïque impérial. Ces caïques qu'utilisent les sultans pour se déplacer sur le Bosphore. On voit tout autour la flotte française qui a accompagné, qui a amené Eugénie. On voit derrière, à droite, l'aigle, c'est le yacht impérial, celui qui a amené Eugénie. Et Eugénie va donc être accueillie à bras ouverts à Istanbul, avec un cérémonial qui est toujours problématique. Et ça, c'est le cas lors de la visite d'Abdulaziz en Occident. Le sultan, le palais, la dynastie ottomane ne peuvent se représenter qu'avec des hommes. Il n'y a que des princes, il n'y a que le sultan. Les femmes ne voyagent pas. Et par conséquent, lors de la visite notamment à Londres, où la souveraine Victoria est une femme, et où toutes les princesses royales entourent en tour victorien, le cérémonial est toujours un peu bancal, avec ce côté oriental qui n'est représenté que par des hommes, et le côté mixte des royautés des monarchies occidentales. C'est encore plus marquant dans le cas de la visite d'Eugénie à Istanbul, puisque tout le cérémonial se fait avec une femme, qui est entouré de tous ces barbus, que ce soit le sultan, que ce soit les princes, que ce soit les dignitaires de l'Empire ottoman. Et lorsqu'on voit femmes lors de cérémonies organisées pendant ce séjour, ce sont les femmes des diplomates occidentaux qui se trouvent à Istanbul. Donc nous avons une sorte de sous-représentation de l'élément féminin ottoman, qui est typique du problème que les Ottomans vont expérimenter jusqu'à la fin de l'Empire. Le fait que les femmes n'ont pas accès à l'espace public et que par conséquent elles ne peuvent pas faire partie de ces festivités de la modernité et de la diplomatie occidentale. Par conséquent, Eugénie rendra visite à la mère du sultan, à la première femme du sultan, mais en privé, sans que cela puisse être organisé comme à l'occidental, à la Franca. Alors il y a des moments forts, par exemple cette revue des troupes à Hünkariskelesi, depuis un kiosque qui a été bâti pour cette occasion, qui vous donne un peu une idée des excès architecturaux qui caractérisent cette période, puisque franchement, quand on parle du style de ce bâtiment, on ne sait plus si c'est l'Alhambra ou si c'est le Taj Mahal. On est en train vraiment de naviguer à travers tous les registres de l'Orient, c'est ainsi que l'Empire ottoman essaye de se représenter face à un public occidental. Et bien sûr, Eugénie va rendre visite à la plupart des monuments de la ville, et notamment Sainte-Sophie. Donc c'est un événement majeur, puisque Sainte-Sophie est un espace sacré, c'est une mosquée qui se visite assez difficilement. Il faut à chaque fois des autorisations. Et cette visite, tout d'un coup, de ce groupe extrêmement hétéroclite de femmes et d'hommes au milieu de cette mosquée de l'Empire est quelque chose qui fait qui surprend un peu. Mais voilà, donc ce sont là les derniers soubresauts en quelque sorte de cette ruée vers l'Occident, puisque là on a vraiment atteint l'apogée de cette intimité, ou du moins un semblant d'intimité entre les têtes couronnées d'Occident et d'Orient, et par conséquent à partir de là nous allons entrer dans une période que je qualifie de crise, une crise économique, une crise politique, ces fastes de la diplomatie, sans jamais complètement disparaître, vont être extrêmement atténués par des conditions beaucoup plus problématiques, des conditions beaucoup plus négatives qui entourent l'Empire ottoman à cette époque-là. Je profite pour faire une petite digression pendant les mêmes années, les années 1860, pour parler de quelque chose qui m'est cher, puisque j'ai passé je ne sais combien d'années à travailler, et je continue d'ailleurs à travailler sur le personnage, c'est-à-dire sur Osman Hamdi Bey, cet intellectuel ottoman qui deviendra en 1881 le directeur du musée impérial, donc qui est reconnu du moins par l'historiographie turc comme étant le père fondateur de l'archéologie dans l'Empire ottoman, mais qui est aussi un peintre, je ne dirais pas un peintre de talent, il peint dans un style très orientaliste, très académiste, c'est un peintre qui a quand même une énorme réputation, d'abord du fait qu'il est ottoman, qu'il est musulman. Alors ça surprend toujours en Occident, et par conséquent, lorsqu'il est présenté lors des salons, parce qu'il a participé à plusieurs salons à Paris dans les années 1860, on souligne toujours le fait que c'est un musulman. Un peu, c'est de l'orientalisme à rebours, si vous voulez. On le félicite pour faire quelque chose que l'on juge être incompatible avec son essence profonde. Donc c'est un caractère. C'est un personnage extrêmement intéressant, d'autant plus que je le qualifie d'orientaliste, ce qui ne plaît pas à certains de mes collègues qui veulent voir en lui un intellectuel qui utilise l'orientalisme pour subvertir en quelque sorte l'orientalisme occidental, pour rendre l'appareil, si vous voulez, pour répondre à l'Occident. Je ne le pense pas, je pense qu'il est vraiment tellement investi dans la modernité alla franca, dans la modernité française en particulier, que je crois qu'il est sincèrement ancré dans une vision orientaliste des choses, ce qui explique un peu sa carrière. Directeur d'un musée qui ne reçoit pratiquement pas de visiteurs, une carrière qui en gros se résume à essayer de se faire bien voir des Occidentaux, de la communauté archéologique, des savants de la période ou de la communauté artistique, des salons et des critiques artistiques de l'époque. Donc il est vraiment complètement tourné vers l'Occident, ce qui inévitablement lui fait épouser des prises de position qui sont orientalistes. Et encore une fois, à chaque fois que je dois parler de l'orientalisme d'Osman Hamdi, je dois insister sur le fait que ça n'est pas grave, ce n'est pas un crime. En fait, ça se comprend parfaitement dans un contexte, je parle de la seconde moitié du 19e siècle, où l'Occident est tellement prenant et le modèle occidental est tellement puissant comme modèle civilisationnel qu'il est difficile d'échapper à cette logique de finir par croire que l'Occident révèle en fait la seule solution, la seule réponse aux problèmes du sous-développement, aux problèmes de l'échec. Quelque chose qui obsède les Ottomans, et que par conséquent, à partir du moment où ils s'engagent dans la voie de la modernité par le biais de l'occidentalisation, ils intériorisent la plupart des préceptes, la plupart des principes de l'orientalisme, notamment le fait que l'Orient est plus ou moins confiné dans le temps, qu'il est gelé dans le temps, qu'il est paralysé en quelque sorte dans une histoire dont il n'arrive pas à se dégager, et que le seul moyen de faire avancer l'Orient, de lui permettre de briser ce carcan qu'est l'Orient, l'essence même de l'Orient, c'est de l'occidentaliser, c'est-à-dire c'est de le forcer à adopter des formes et des normes qui sont extérieures à sa culture, parce qu'elles sont meilleures, parce qu'elles sont beaucoup plus performantes et parce qu'elles sont le seul moyen dont nous disposions pour faire changer les choses dans un contexte où normalement tout va rester en quelque sorte immobile dans le temps, incapable de se régénérer. Osman Hamdi, bien sûr, a des débuts qui sont très prometteurs. Il est étudiant à Paris dans les années 1860. Et voici deux photographies d'Osman Hamdi. À gauche, à Paris, avec son nœud papillon, il a l'air d'un flâneur un peu baudelairien. Ce sont les années 1860. Il est à Paris de 1860 à 1868. Il s'y lira avec une femme, une Parisienne, qu'il n'épousera pas, je crois, mais dont il aura deux enfants et qu'il ramènera à Constantinople et qui restera avec lui jusqu'à leur séparation vers 1874. D'ailleurs, après cette séparation, il va tomber amoureux d'une autre Française et l'épouser. Donc, il est vraiment tellement investi dans la culture française que je ne connais pratiquement pas de texte de lui qui a été rédigé en turc, mis à part la correspondance officielle du musée, etc., qu'il se contentait de signer. Toute sa correspondance avec son père, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues, elle est en français. Il est complètement plongé dans cette culture française, il l'a intériorisé, il a été acculturé au point de devenir ce que Sherif Mardin appelle un super occidentalisé, super westernized, une forme d'occidentalisation à outrance, ou pas à outrance, mais à l'excès, au maximum, si vous voulez, qui fait de lui quelqu'un qui a complètement épousé, qui a complètement intérioriser cette culture occidentale. À droite, vous le voyez quelques années plus tard, en 69-70, alors qu'il est au ministère des Affaires étrangères, un petit fonctionnaire du ministère, vous le voyez avec le costume qu'il devait porter dans l'Empire ottoman, un costume moderne, bien sûr, mais avec le fez. Enfin, nous savons par sa correspondance à Paris qu'il essayait autant que possible de ne pas porter le fez à Paris et par conséquent de se mêler à la foule à la manière des autres. Et d'ailleurs, il avait d'autres raisons de vouloir se fondre en quelque sorte dans le décor parisien, puisque même s'il y était allé pour y faire des études de droit, il n'avait pas réussi à obtenir son diplôme parce qu'il s'était dissipé en s'essayant à la peinture. La peinture, c'était sa passion. Il n'a jamais été inscrit à l'école des beaux-arts. Mais il a travaillé avec Boulanger. Nous savons, et vous en verrez un exemple, qu'il a été très influencé par Jérôme, même s'il n'a pas été inscrit dans son atelier. Donc vraiment, il a découvert sa passion alors qu'il était à Paris. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de difficultés qu'il accepte la décision paternelle en 1868 de rentrer à Istanbul. Son père le menace de couper les vivres, enfin ce que l'on peut imaginer, et le force à rentrer à Istanbul. Et dès qu'il rentre à Istanbul, d'ailleurs, il le donnera à Mithat Pacha, un des gouverneurs réformateurs de l'époque, pour qu'il l'emmène à Bagdad pour y travailler pendant 2 ans dans la suite de Mithat Pacha, gouverneur de Bagdad. Et pour lui, c'est un peu une douche froide, imaginez en 1869 passer de Paris à Bagdad, mais c'est aussi une découverte, et une découverte qui va, à mon avis, renforcer en quelque sorte son caractère orientaliste. Il va découvrir l'Orient. J'ai d'ailleurs publié, il y a de cela quelques années, chez Actes Sud, sa correspondance avec son père de Bagdad et d'autres documents concernant son séjour à Bagdad, notamment des mémoires qu'il a fait publier sous un pseudonyme par un journaliste allemand. Et il en ressort une vision assez intéressante d'un Ottoman qui est tellement occidentalisé que lorsqu'il se rend dans une province qui est après tout une province de l'Empire ottoman, il se retrouve en quelque sorte en Orient. J'avais appelé ça un Ottoman en Orient pour essayer d'ironiser, si vous voulez, sur ce contraste entre une identité que, vue d'Occident, on qualifierait d'orientale, et le fait que ce jeune homme, en 1869-70, se retrouve dans un Bagdad qui, pour lui, représente représente l'Orient avec tous ses fantasmes, les bédouins, les belles bédouines, etc. Donc c'est vraiment un sujet fascinant qui recoupe plusieurs de mes intérêts, puisque je m'intéresse d'une part à l'histoire de l'archéologie dans l'Empire ottoman, et je vous ai dit que Osman Hamdi finirait par jouer un rôle primordial dans le développement de cette discipline, mais d'autre part, je m'intéresse à ces biographies de gens qui sont entre deux eaux, qui essayent, qui sont occidentalisés à des degrés variables et qui essayent de, d'adapter leurs connaissances occidentales à une situation orientale, une situation ottomane, et qui essaye de gérer cette dualité avec plus ou moins de bonheur. Je pense que Osman Hamdi a trouvé le bonheur dans une sorte d'isolation, c'est-à-dire qu'il a joué la carte de l'isolement, de se réfugier en quelque sorte dans son atelier, dans son musée et dans sa demeure pour ne pas avoir à gérer l'Orient qui se trouvait aux portes de sa maison ou de son bureau. Il est heureux dans son bureau parce que c'est son musée, il considère que c'est une contribution majeure à la civilisation de l'Empire ottoman, et c'est quelque chose qui le met sur un pied d'égalité avec les plus grands noms de l'Occident à cette époque-là. Il est ravi de pouvoir s'adonner à sa passion de peintre, et ses peintures généralement orientalisantes sont une manière de représenter l'Orient qu'il s'imagine, le fantasme de l'Orient qu'il entretient depuis les années 1860 dans son esprit. Par conséquent, c'est comme ça qu'il gère ça. Il n'a jamais revendiqué une place dans l'espace public, dans la presse, dans l'activisme moderniste, si vous voulez. Jamais le moindre article dans la presse illustrée de l'époque pour vanter l'archéologie ou quoi que ce soit. Non, tout cela se fait à huis clos, et on sent bien qu'il essaye de se créer un petit Paris à Istanbul même. Donc il est très particulier, puisque d'autres, tout aussi ou presque aussi occidentalisés que lui, vont au contraire jouer la carte de l'action publique, de publier des livres, publier des articles, d'essayer de se lancer dans une mission occidentalisante, bien sûr, mais une mission locale, une mission qui s'ancre dans un rôle de novateur ou de leader dans un pays qui a besoin de changer. Osman Hamdi, rien de cela, il se tient à l'écart de toutes ces considérations politiques et culturelles, il s'isole. Voilà, donc dans les années 1860, il est à Paris. Et nous avons très peu, malheureusement, de toiles qu'il a produites pendant son séjour parisien qui est survécu. Et par conséquent, nous n'avons pas vraiment de quoi, nous savons de quoi traiter ces toiles, mais nous n'en avons qu'un ou deux exemples qui aient survécu et sur lesquels nous puissions faire une sorte d'analyse à la fois textuelle, intellectuelle et pictoriale. Et artistique. Et c'est justement sur une de ces toiles que je voudrais me pencher, une toile qu'il a exposée pendant l'exposition universelle. Alors, je vous ai dit qu'il avait déjà exposé au Salon, l'a exposé à l'exposition universelle dans la section ottomane. Ça n'est pas la même chose, c'est quelque chose de beaucoup plus facile, puisque il fait partie un peu de la bureaucratie de l'époque. Il a un petit poste de secrétaire à l'ambassade, et de toute façon, son père, Ethem Pacha, est un des hauts dignitaires de l'époque. Par conséquent, il a toutes ses entrées, si vous voulez. Il n'a pas de mal à faire accepter un tableau dans la section ottomane de l'exposition universelle. C'est donc sur ce tableau que je voudrais me pencher pour essayer de vous expliquer comment fonctionne l'orientalisme ottoman, c'est-à-dire cette idéologie hybride qui se nourrit de l'orientalisme occidental et qui l'adapte à ses besoins, qui modifie cette idéologie de manière à s'en servir, de manière à se l'approprier, non pas pour répondre à l'orientalisme occidental, mais pour essayer de se situer dans un contexte qui est historiquement, culturellement, plus profondément ancré dans la tradition locale. Puisque le problème des orientalistes, et ça on le sent même en Occident, ils sont souvent critiqués pour le côté un peu fantaisiste de leur peinture. Jean-Léon Gérôme en est un bon exemple, même si c'est un peintre très 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 présent, adulé par beaucoup dans les années 1860, il y a quand même une section de la critique, de l'opinion publique, qui voit déjà dans son art quelque chose d'extrêmement fantaisiste, une sorte de caricature de l'Orient. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, dans les décennies qui suivent, l'orientalisme sera de plus en plus décrié jusqu'à pratiquement complètement disparaître de la scène, ou du moins se modifier au point de devenir quelque chose de très différent de ce qu'il était dans les années 1860. Pour un jeune ottoman qui se trouve à Paris, le problème est de se situer sur cette scène artistique, en faisant la part des choses, c'est-à-dire d'une part en revendiquant son identité de Turc entre guillemets, mais en essayant de faire quelque chose qui soit moins une sorte de dérivée de ce qui se fait déjà en Occident. D'ailleurs, dans le cas d'Osman Hamdi, on sent bien que s'il fait des tableaux, s'il produit des œuvres qui sont essentiellement des représentations de l'Orient, ce n'est pas forcément parce qu'il le veut, mais parce que c'est ce qu'on attend de lui. Vous, l'Ottoman, vous allez, lui dit Boulanger probablement, vous allez me représenter quelque chose qui est bien de chez vous. Vous allez pouvoir nous donner de l'authentique, de l'Orient authentique. Alors, le problème, c'est que Osman Hamdi n'a pas une très bonne connaissance de l'Orient authentique. C'est un fils de Pacha qui a grandi à Istanbul, qui a quitté la ville en 1860 et qui a passé 8 ans d'affilée à Paris. Il est un peu coupé de ses sources. D'autant plus que, encore une fois, il fait partie d'une famille extrêmement occidentalisé. Etem Pacha, on l'avait déjà évoqué l'année dernière, est un de ses premiers élèves musulmans à être envoyé, même si c'est un rescapé du massacre de Kyo, à être envoyé en Occident pour y faire leurs études. Il fait l'école des mines. Donc il est parfaitement francophone, très imbu de science et de culture française, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Osman Hamdi, à 18 ans, va se retrouver à Paris. Donc il faut bien savoir que c'est un fils de Pacha privilégié et déjà très occidentalisé, qui ne connaît pas les fins fonds de l'Anatolie, ni même les quartiers un peu plus périphériques d'Istanbul. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la surprise qu'il éprouve lorsqu'il découvre l'Orient à Bagdad. Il est vraiment il est fasciné par un Orient qu'il ne connaissait absolument pas, un peu à la manière d'un officier de l'armée britannique en Inde ou d'un officier français en Algérie. Donc c'est un peu ça la super-occidentalisation, c'est un peu le fait d'être coupé de ses propres sources. Et par conséquent, le tableau qu'il expose en 1867 est un tableau intéressant, c'est le Zeybek à l'affût. Alors, le Zeybek à l'affût, vous voyez, c'est un soldat ou un brigand plutôt, un brigand au costume assez original, notamment le couvre-chef qui s'étage un peu comme ça sur les hauteurs, avec des pantalons bouffants mais courts, des guêtres, des jambières, etc. C'est quelque chose qui appartient au folklore de l'Anatolie occidentale. Les Zeybeks existent encore aujourd'hui, ou du moins folkloriquement. Ils sont connus pour leur bravoure. C'est un peu l'équivalent du brigand italien, du brigand espagnol. C'est un personnage de très romanesque, si vous voulez. Ce qui rend ce personnage d'autant plus romanesque, c'est que les Zeybeks vont s'engager dans la guerre de Crimée. De manière assez systématique, en tant que volontaire, dans ce qu'on appelle les unités de Bachebozouk. Et les lecteurs de Tintin se souviendront de ce que le capitaine Haddock utilisait comme insulte, Bachebozouk. Bachebozouk veut dire en fait irrégulier. Irréguliers, ce sont des irréguliers. Et ces irréguliers, eh ben, ils font ce que la plupart des irréguliers font, c'est-à-dire qu'ils commettent des crimes de guerre, des rapines, ils sont violents. Et par conséquent, ils font leur entrée dans la culture occidentale, déjà dans les années 1830-40, avec certains peintres qui peignent ces nobles brigands de camp, par exemple, qui peignent des portraits de ces nobles brigands, mais c'est surtout avec la guerre de Crimée et la presse illustrée que le bachibouzouk va faire son entrée dans la culture populaire, la culture de masse en Occident. Et ce bachibouzouk, c'est souvent, comme je vous le disais, c'est souvent un zeybek. Donc le zeybek va se retrouver, même si on ne les nomme pas des zeybek, on préfère bachibouzouk, ça fait rêver un peu plus, on ne sait pas exactement comment différencier les deux. Donc Osman Hamdi, en peignant un zeybek, est en train de faire quelque chose d'intéressant, puisqu'il répond à quelque chose, il répond à une attente, il répond à une image qui est déjà assez fortement ancrée auprès du public occidental. Seulement, la question que je me suis posée tout de suite, c'est que, franchement, pour qu'Osman Hamdi connaisse et puisse peindre un Zeybek, il faudrait qu'il connaisse un peu la tradition locale, le costume, l'aspect général de ces brigands. Or, mon opinion est que, en tant que fils de pacha dans son environnement douillet de Constantinople, il n'a pas dû avoir beaucoup d'occasions d'observer les Zeybeks. Par conséquent, il devait y avoir une sorte d'influence occidentale dans cette découverte du Zeybek. Et une collègue historienne de l'art, Gulru Çakmak, a amené le premier élément de réponse à cette interrogation en montrant que le Zeybek, la pose du Zeybek, était directement empruntée à un tableau de Boulanger, son maître, les éclaireurs arabes qui avaient été exposés, si je ne me trompe, en 1857 au Salon de Paris. Le tableau n'existe plus, mais on en a une représentation gravée dans une publication. Et oui, effectivement, lorsqu'on voit la pose du Zeybek, c'est-à-dire le Zeybek à l'affût, ce brigand se cachant derrière un petit promontoire rocheux, et par conséquent avec une promesse de violence, on voit bien que c'est là que Osman Hamdi a puisé son inspiration. Seulement pour moi, cela ne suffisait pas, puisque je devais aussi me poser la question du costume. Le cas Boulanger, le tableau de Boulanger, ne répondait pas à cette exigence, puisque c'était des éclaireurs arabes, un contexte colonial purement algérien, rien à voir avec notre Zeybek. Et pour cela, je suis allé voir un peu dans la production orientaliste de l'époque et je suis tombé sur un tableau très connue de Jean-Léon Gérôme, l'almée. L'almée, c'est quelque chose qu'on connaît depuis Nerval, n'est-ce pas? L'almée, c'est la danseuse du ventre, c'est la danseuse lascive du Caire. Et cette représentation de l'almée par Gérôme, en 1863, si je ne me trompe, donc 4 ans avant le Zeybek d'Osman Hamdi, est un tableau où l'on voit quelque chose de tout à fait incongru. On voit des Zeybeks assistant à la danse de l'almée. La danse se situant au Caire, il est tout à fait impossible que des Zeybeks se trouvent au Caire. Peu importe, l'orientalisme fonctionne ainsi, il suffit de faire un collage, de photoshopper en quelque sorte, des éléments qui eux-mêmes parlent d'Orient, à partir du moment où ils sont réunis dans un espace qui lui-même évoque l'Orient, c'est bon, on a assez d'Orient pour évoquer cette partie du monde. Et le Zeybek pensif à gauche qui admire les évolutions de l'almée, quand on regarde de plus près, c'est exactement le costume du Zeybek d'Osman Hamdi. Donc on aura compris, Osman Hamdi, lorsque il a la bonne idée de donner du turc parce qu'il est turc, donner de l'ottoman parce qu'il est ottoman au public français, il n'a pas les moyens, par sa propre culture, de représenter quelque chose d'authentique, et par conséquent, il va chercher l'authenticité chez les orientalistes, il va emprunter à Boulanger la pose du Zeybek, il va emprunter à Gérôme l'aspect, le costume et l'aspect général du Zeybek, et voilà, vous avez un tableau qui a été reçu notamment par la critique ottomane comme une excellente représentation d'un élément de la culture ottomane, etc. Tout le monde est en dupe en quelque sorte de la manipulation qu'il avait effectuée, celle de recycler de l'orientalisme pour en faire quelque chose qui prétendait être simplement oriental, tout simplement parce que c'était signé Osman Hamdi et que tout le monde savait que Osman Hamdi était ottoman. Voilà. Et c'est ce qui rend Osman Hamdi, à mon avis, tout à fait fascinant, le fait qu'il a joué avec cela, c'est-à-dire qu'il a joué à l'authenticité en se costumant en 1873 lors de l'exposition universelle de Vienne, par exemple, en se costumant d'une manière assez, assez éclectique, en empruntant des costumes à une collection qu'il avait été amené à exposer à Vienne. Il s'affuble de ce mélange de costumes pour poser dans un studio photographique viennois et pour se représenter lui-même en oriental. Donc c'est l'ottoman posant en oriental. Et quand vous regardez le tableau à droite qu'il a peint en 1905 en 2 exemplaires, ce tableau, c'est encore une fois lui, c'est un autoportrait, lui dans un costume qu'il s'est tout simplement inventé et qui, pour les Ottomans, mais surtout pour l'Occident, parce que ce n'est qu'en Occident qu'il expose ses tableaux, est un tableau qui est très convaincant, qui représente quelque chose qui fait sens, comme on dit, puisque c'est un oriental en costume oriental, devant une porte avec des faïences orientales, et le tout signé par quelqu'un dont on sait qu'il est ottoman. Voilà, l'authenticité est vérifiée. Alors que c'est comme dans le cas de l'orientalisme occidental, c'est un Orient, j'allais dire de pacotille, c'est un Orient qui est fabriqué de toutes pièces dans un atelier par quelqu'un qui n'a pas vraiment la connaissance de tel ou tel costume, mais qui sait manipuler ce qu'il a en main assez pour donner un aspect de un élément de vraisemblance qui à la longue devient une vérité. Et ça, c'est, si vous me passez l'expression, c'est génial. C'est génial parce que ça lui permet de se faire une réputation de peintre oriental et de cacher en quelque sorte le fait qu'il pratique l'orientalisme tout comme ses collègues occidentaux de l'époque. Voilà, après cette digression, pour la dernière demi-heure, je vais pouvoir me plonger dans la crise que j'annonçais au début de cette leçon, la crise prolongée de 1870 à 75, voire même à 76. La crise ne s'arrête jamais vraiment, mais vous le verrez, il y a quelques solutions qui y sont amenées. Cette crise, elle est avant toute chose économique. Il va de soi que la performance de l'Empire ottoman est avant tout liée à la capacité du système économique de répondre aux exigences du temps. Et après quelques années, voire quelques décennies d'euphorie, avec un flot plus ou moins continu de crédits sous la forme d'investissements ou sous la forme d'emprunts, dans les années 1870, le système tombe en panne. Le système tombe en panne, on peut d'ailleurs donner une date assez précise pour parler d'un krach banquier en 1870. Alors, je ne sais pas si les graphiques de ce genre vous plaisent, mais en tout cas, ils sont assez parlants. Voici l'évolution de la réserve de la Banque impériale ottomane, cette banque que j'avais décrite dans mes leçons précédentes, cette banque qui avait débuté sa carrière en tant que banque privée et qui était devenue banque d'État, donc une grosse institution, une des plus grosses entreprises de l'Empire. Voici l'évolution de sa réserve monétaire, donc son or, la caisse, comme on disait, de mai à octobre, octobre 1870. Vous voyez qu'il y a une chute épouvantable à partir de la mi-mai. On se retrouve à un plancher qui frise à peu près les 100 000 livres. Et 100 000 livres pour une banque, ça n'est rien vraiment. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle un rush sur la banque. C'est un krach banquier. Et ensuite, petit à petit, la banque essaye de se rétablir à environ 300 000. Et elle survivra cette crise d'ailleurs. Mais l'Empire est bien en crise. Alors la crise a toutes sortes de raisons. La crise, elle est aussi internationale. Il faut se souvenir que 1870, c'est la guerre franco-prussienne, c'est la défaite de la France impériale, c'est un événement majeur qui va causer bien des troubles dans le système économique et financier de l'époque. C'est aussi un creux de ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev, c'est-à-dire un creux dans l'évolution même du capitalisme. Il y a toujours des montées et des descentes, et par conséquent, les années 1870 appartiennent à un creux dans ces cycles plus courts de 25 ans. Il y a bien sûr des conditions locales. Il y a le fait, par exemple, que le quartier de Perrin, celui que j'évoque souvent en tant que quartier occidental de la ville, va être complètement détruit par les flammes lors d'un incendie en juin 1870. Alors c'est quelque chose qui, sans causer directement une crise, va énormément contribuer, puisque la population qui compte, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui représente justement les investissements ou les dérivés des investissements occidentaux, elle se trouve justement dans ce quartier-là, et par conséquent, lorsque ce quartier part en fumée, c'est un peu le capitalisme à Constantinople qui va être extrêmement endommagé par cet accident majeur. Donc il y a toutes sortes de choses pour expliquer la crise de 1870, mais parmi toutes les explications, je pense qu'il faut retenir surtout celle de l'endettement. C'est-à-dire le fait que depuis 1854, l'Empire est en train de s'endetter, est en train d'emprunter à l'Occident. emprunter des sommes de plus en plus importantes. Vous avez là l'exemple, un échantillon, un exemplaire d'un titre provisoire de l'emprunt ottoman de 1872, emprunt à prime de 792 millions de francs. Ce sont des sommes très importantes. D'ailleurs, encore une fois, si vous me le permettez, je vais vous dire ça en graphique, et avec l'évolution de cet endettement depuis le début, donc depuis 1854, jusqu'à la fin des années 1870. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que déjà, l'ampleur de l'endettement a complètement changé à partir de 1865. C'est-à-dire qu'on est parti d'emprunts en 1850 qui sont somme toute assez modestes. On parle de 2 millions et demi, 5 millions de livres sterling. Ce sont des sommes importantes, mais ça n'est pas excessif. 58, encore une fois 5 millions, et même au début des années 60, on est encore en dessous des 10 millions. Et tout d'un coup, lorsqu'on passe en 1865 à 35, 40 millions, ou bien 20, 25 millions, 30 millions, en 73, 45 millions, on est passé à un registre complètement différent. C'est-à-dire qu'on a commencé à emprunter de manière presque suicidaire. D'ailleurs, ce suicide se lit dans la différence entre les histogrammes noirs et rouges de ce graphique. En noir, je vous ai donné la valeur nominale des emprunts, c'est-à-dire la somme qui est indiquée sur le contrat d'emprunt et sur les titres, sur les obligations qui sont distribuées au public. C'est la somme nominale. Et puis, à côté, en rouge, vous avez la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur effective, celle qui entre dans les caisses de l'État à la suite de la signature de cet emprunt. Et ce que l'on note tout de suite, c'est que l'écart entre la valeur nominale et la valeur réelle est en train de se creuser de plus en plus. C'est-à-dire que dans les années 1850, on a presque une sorte de parité, c'est-à-dire que l'Empire reçoit chaque livre sterling qu'il emprunte. Vers les années 1860, on commence à tomber en dessous des 60%. Et dans les années 70, on est déjà à 50%, voire même à 30-40%. Ce qui veut dire en gros que l'Empire s'endette de 100 millions, par exemple, et va donc devoir rembourser 100 millions avec les intérêts, mais en fait, il n'en reçoit que 50 ou que 40. Ce qui traduit en quelque sorte la différence entre les deux, traduit tout simplement le crédit de l'Empire, c'est-à-dire la capacité que l'on estime l'Empire avoir de rembourser sa dette. Or, cette crédibilité, ce crédit est en train de chuter. Et par conséquent, l'Empire devient un lieu d'investissement à risque, à haut risque, où l'on fait payer justement à l'emprunteur tous les risques qu'il y a dans cet emprunt, cet endettement galopant au cours des années. Alors, c'est un problème énorme. C'est un problème énorme puisque on arrive à une situation en quelque sorte suicidaire, en quelque sorte un cercle vicieux où l'Empire est en train d'emprunter uniquement pour payer, pour rembourser ses dettes précédentes. Il n'y a qu'à voir l'évolution, autre graphique, l'évolution des remboursements annuels des emprunts ottomans. On voit bien qu'on est en train de passer du million environ en 1855. Les remboursements sur le premier emprunt et une partie du second emprunt à presque 12 millions de livres sterling par an, dans les années 1875. Et si ça chute tout d'un coup en 1876, c'est uniquement parce que les Ottomans n'auront d'autre solution à cette crise que d'arrêter ce qu'on appelle le paiement du coupon, c'est-à-dire de déclarer une faillite, une banqueroute unilatéralement, c'est-à-dire d'avertir les porteurs des obligations ottomanes que dorénavant, l'Empire ottoman ne paierait plus le coupon, ou du moins qu'il n'en paierait que la moitié et que l'autre moitié serait convertie en titre de... Un système compliqué qui, en gros, veut dire que l'État a fait faillite et qu'il ne peut plus payer sa dette. Alors ça, bien sûr, ça fait chuter les remboursements, mais ça fait chuter aussi le crédit qui était déjà au ras des pâquerettes de l'Empire et fait de l'Empire la cible d'un désir, d'une obligation des places financières occidentales de trouver une solution à cette faillite. Parce que le problème des emprunts, c'est que ces emprunts, ce ne sont pas des emprunts d'État à État, ce sont des emprunts qui parfois sont garantis, notamment au début, par un État ou un autre, la Grande-Bretagne ou la France, tout au début, dans les années 50, parce qu'on voulait encourager les Ottomans à emprunter et qu'on voulait leur donner les moyens de financer la guerre de Crimée. Mais au fur et à mesure, à partir des années 1860, ce sont des emprunts qui sont contractés sur les places financières de Paris, de Londres, de Berlin, de Vienne, c'est-à-dire des emprunts qui sont vendus par des institutions de crédit, les Rothschild ou des banques, etc., qui sont vendus à des petits porteurs. Et les petits porteurs, c'est eux qui vont payer les frais, qui vont faire les frais de cette faillite si les gouvernements n'interviennent pas. Donc une solution gouvernementale aurait peut-être été plus facile. On connaît beaucoup d'exemples de dettes qui sont tout d'un coup rayées parce que c'était des dettes d'État à État et que la décision politique est prise d'oublier en quelque sorte les dettes de certains pays envers d'autres. Mais lorsqu'il s'agit du petit porteur parisien, londonien, et pas que parisien, mais marseillais, lyonnais, etc., on parle de quelque chose qui risque de déstabiliser le système financier, voire même le système politique en Occident. Et par conséquent, il faut trouver une solution. Cette solution, elle n'apparaîtra qu'en 1881, mais pour le moment, je voulais simplement vous donner une idée claire de la manière dont cette montée en flèche des remboursements indiquait que l'Empire ottoman était pris dans une sorte de spirale, dans une sorte de tourbillon, dans un maelstrom financier, et en était arrivé à devoir financer ses propres remboursements de la dette par de nouveaux emprunts. Au niveau de la banque ottomane, on arrive à voir exactement le même phénomène à partir de ce qu'on appelle les avances faites au gouvernement et faites au public. La banque impériale ottomane, dès 1863, parce que c'est une banque d'État, se doit de servir son État. Elle le sert de plusieurs manières, l'émission de banknotes, la médiation et l'organisation de certains emprunts. Donc la banque devient en quelque sorte agent financier de l'Empire, mais aussi en contractant des contrats d'avance avec le gouvernement, c'est-à-dire en faisant des avances immédiates au gouvernement en cas de besoin urgent. Et là, la banque remplace avantageusement, dans la plupart des cas, les banquiers locaux, ces sarraf, ces banquiers locaux, pour la plupart grecs, arméniens, juifs, qui ont énormément profité des difficultés financières de l'Empire avant la création de la Banque ottomane, parce qu'il monopolisait, ou du moins il cartélisait un peu la place financière de Constantinople, la banque était devenue un agent, un acteur puissant qui mettait un frein à ce genre d'abus en baissant les taux d'intérêt sur ses emprunts et en offrant au gouvernement ottoman la possibilité d'obtenir des avances à un coût légèrement moindre. Seulement, lorsque l'on regarde l'évolution des avances de la banque ottomane, au public en général, les avances, le total des avances et les avances au gouvernement, on note quelque chose d'assez frappant, c'est que les avances au gouvernement s'interrompent sérieusement à partir de l'année des années 1880. Et ça aussi, c'est une traduction directe de ce que je vous décrivais comme la crise des années 70, c'est-à-dire que dans les années 70, et vous voyez que la montée en flèche des avances au gouvernement, elle correspond à peu près à 1870, il y a une montée en flèche à tel point que les avances au gouvernement, en 1800, que je dise pas de bêtises, vers 1876, représentent en gros 90% de toutes les avances de la banque. C'est-à-dire que la banque, qui avait quand même vocation à être une banque commerciale aussi, est complètement happée par les emprunts de l'État et se retrouve dans l'incapacité de répondre aux besoins du public, du marché, tant elle est réquisitionnée en quelque sorte par le gouvernement. Et ceci va durer jusque dans les années 80, une chute avec la création de la dette publique ottomane, mais cela vous donne bien une vision très nette de cette crise. C'est une crise politico-économique, politico-financière. L'Empire est en banqueroute, l'Empire n'arrive plus à financer sa propre survie et il n'a que des moyens très restreints d'essayer de trouver une solution à cette crise. Donc les années 70 sont caractérisées par cette crise très profonde, le manque de financement, le manque de moyens et l'incapacité dans laquelle l'État se trouve de gérer au jour le jour la survie de la machine étatique, la survie de l'économie. Et bien sûr, la responsabilité, alors, je ne vais pas me lancer dans une étude ou une diatribe de l'impérialisme. Il est évident qu'il y a là un cercle vicieux qui est dans la nature même de la domination financière du tiers-monde par le capital occidental, mais il y a quand même une part formidable de responsabilité du côté ottoman, puisque le problème majeur, c'est que les emprunts, et ça je l'avais déjà évoqué, les emprunts sont utilisés de manière très irrationnelle. Les emprunts, le produit des emprunts, est utilisé de temps en temps pour un assainissement du marché, notamment par exemple pour le retrait du papier-monnaie en 58-62. Ce qui est tout à fait légitime, mais le gros du produit des emprunts est utilisé en gros au financement des dépenses excessives du gouvernement, du palais, la construction de palais, toutes ces fantaisies mauresques, alambresques que je vous ai montrées, tous ces kiosques qui sont érigés pour la visite d'Eugénie en 1869, ça coûte énormément, ça coûte énormément. Et c'est quelque chose que le gouvernement va essayer de financer par le produit de ses emprunts. Les premiers emprunts étaient déjà mal partis, puisque, vous vous souviendrez, 54-55, deux emprunts consécutifs qui avaient été donnés à des taux extrêmement favorables à l'Empire ottoman. Je crois qu'il y en avait un qui avait été émis en fait au-dessus de 100%, à 102,5%. quelque chose vraiment qui dénote une confiance, je dirais aveugle, dans l'emprunteur. Mais ces deux premiers emprunts ont été entièrement dépensés pour la guerre de Crimée. Donc encore une fois, un investissement que l'on peut considérer comme nécessaire, voire même inévitable, mais en tout cas un investissement qui n'a aucun retour concret, un investissement qui n'a pas de retombées économiques et dont on ne peut pas espérer obtenir des bénéfices à court, à moyen ou à long terme. Donc c'est là le problème du sous-développement ottoman, si vous voulez, le fait que l'entrée de capitaux se fait d'une manière extrêmement biaisée, elle se fait essentiellement pour des projets qui n'ont aucune viabilité, aucune faisabilité économique, qui n'ont d'ailleurs aucun objectif économique, je pense encore aux palais, etc., ou alors pour des investissements par le biais d'entrepreneurs occidentaux, notamment des investissements qui sont tellement ciblés sur la commercialisation, sur le transport, sur certains aspects très spécifiques du développement de l'agriculture, qu'ils n'ont pas de retombées bénéfiques sur l'économie elle-même. Il n'y a pas vraiment de création d'usines, d'entreprises, il n'y a pas de capitalisme qui naît au-delà d'un capitalisme purement commercial et un capitalisme purement financier. Dans les années 1870, on boursicote à longueur de journée, donc il y a l'Empire ottoman s'intègre complètement dans l'économie monde, mais par le biais de la finance, par le biais d'investissements complètement dominés qui ne permettent pas de lancer la machine industrielle, de créer le genre d'emploi, le genre d'entreprise qui pourrait à long terme se traduire par un démarrage économique. Les quelques usines dont l'Empire dispose sont des usines qui datent déjà des années 1840-50. Il n'y a pratiquement aucun investissement qui se fasse dans l'industrie, au-delà, encore une fois, de l'armée, c'est-à-dire de l'équipement militaire. Alors là, pour les poudrières, pour les fonderies de canons, là, effectivement, on engloutit des millions dans la création de ce genre d'entreprise, mais aucun pas n'est lancé dans la direction d'une véritable industrialisation. Donc cette crise économique, elle va marquer de manière tout à fait décisive l'avenir de l'Empire ottoman, puisqu'elle va en quelque sorte dessiner les conditions d'une tutelle économique et financière qui sera presque complète, c'est-à-dire que si 1856 inaugurait en quelque sorte une tutelle diplomatique, une tutelle politique de l'Occident, la crise économique des années 1870 et la solution que l'on y trouvera, c'est-à-dire la création d'un consortium qui va mettre la main sur les revenus de l'État pour constituer ce qu'on appelle l'administration de la dette publique ottomane, c'est-à-dire un État au sein de l'État dont l'obligation, dont la charge, dont l'objectif est de trouver les moyens d'assurer le remboursement des emprunts ottomans. Dans ces conditions-là, évidemment, on est passé à un autre régime de tutelle, une tutelle qui est désormais économique, financière, et qui par conséquent s'ouvre vers la phase finale du capitalisme occidental, l'impérialisme. Et sur ce sujet, même si c'est sur une période beaucoup plus tardive, les années 1895 à 1914, je vous conseille de lire l'ouvrage du regretté Jacques Toby, « Intérêt et impérialisme français dans l'Empire ottoman, qui est un magnifique pavé, mais qui retrace très bien et dans le détail l'établissement de l'impérialisme français, avec une focalisation sur l'identité française de cet impérialisme pendant les dernières décennies de l'Empire. Donc cette crise, bien sûr, comment peut-on parler d'une crise économique sans parler de crise politique? Et il est évident que dans le cas de l'Empire ottoman, la crise économique, la crise financière qui débute déjà au milieu des années 1860 va se doubler d'une crise politique. Une crise politique dont on a vu déjà des bribes en 58, cette conjuration visant à éliminer Abdülmecid. En 1869, il y aura une autre conjuration du même type qui a été étudiée elle aussi par Burak Onaran dans l'ouvrage que je citais l'autre jour. Mais vous avez beaucoup plus concrètement quelque chose qui à long terme va marquer la politique ottomane. Vous avez la création de ce que l'on appelle la Jeune Turquie. La Jeune Turquie, alors bien sûr le terme est emprunté, et c'est tout à fait dans l'air du temps, est emprunté à toutes ces jeunesses occidentales que l'on connaît, jeune Pologne, jeune Italie, tous ces mouvements carbonaristes des années 20, 30, 40, qui vont marquer la scène politique occidentale avec force révolution. Les Ottomans vont se constituer en jeunes Turcs déjà dans les années 1860 avec la création d'un mouvement qu'on appelle celui de la Jeune Turquie ou des Jeunes Turcs. Il va être par la suite renommé Jeunes Ottomans pour la bonne et simple raison que à la fin du 19e siècle, il y aura un second mouvement, une seconde vague, celle des Jeunes Turcs, ceux qui feront la révolution de 1908, qui en quelque sorte revendiqueront ce nom, effaçant pour leur prédécesseur l'attribution qui était faite de ce terme de Jeune Turquie. Mais dans le contexte historique qui nous intéresse, je continuerai à les appeler des Jeunes Turcs, tout en les différenciant bien sûr de leurs cadets qui ne viendront que 30-40 ans plus tard à revendiquer la liberté dans l'Empire ottoman. Je m'arrêterai donc ici et la dernière leçon, la semaine prochaine, portera sur ce que j'appelle l'année des Trois Sultans, 1876, j'en ai déjà parlé, l'annus horribilis de 1876, qui est une sorte d'apogée de la crise, puisqu'on va y voir l'explosion de toutes sortes de formules politiques, et ce sera le début d'une période très différente, celle de l'autocratie d'Abdülhamid, qui va s'installer et va durer jusqu'à la révolution jeune turque de 1908. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de ces jeunes turcs, nous parlerons de l'opposition politique, nous parlerons de 1876 et nous parlerons des débuts de ce qui deviendra l'autocratie hamidienne, laissant le sujet lui-même pour l'année prochaine. Je vous remercie.